RCF.
Le père Joseph Wrzeski est donc ordonné prêtre en 46 dans le diocèse de Soissons. Axel Brodier, vous avez souligné déjà sa fibre sociale, on va dire très très marquée. Dans quelles circonstances arrive-t-il dans le camp de Noisy-le-Grand ?
Donc c'est un prêtre un petit peu atypique dans sa paroisse. L'évêché commence à recevoir un peu des plaintes à son sujet. Il ne sait plus trop quoi en faire. On est dans le contexte de 1954, l'appel de l'abbé Pierre, qui a un succès extraordinaire en France et au niveau international. Suite à cet appel, afflue des populations mal logées ou non logées, parce qu'on est en pleine crise du logement en France. Et donc arrivent des familles à Paris, que l'abbé Pierre essaye de loger tant bien que mal, dans des camps de tentes aux portes de Paris, portes d'Orléans, portes de Vanves, etc. Mais en juin 54, reste encore un certain nombre de familles non relogées parce que pour beaucoup, difficilement relogeables, trop cassées, trop abîmées. Et donc, à partir de juillet, l'abbé Pierre, qui a entre-temps acquis un terrain complètement insalubre à Noisy-le-Grand, décide de mettre ces familles sur le camp. Et donc, en juillet 54, arrivent les premières familles sur le terrain de Noisy-le-Grand, qui n'est pas viabilisé, qui est plein de boue, il n'y a pas d'électricité, il y a une seule borne fontaine.
Un vrai bidonville. Quoi.
Ah bah au début, c'est rien du tout. Et puis petit à petit, une fois que vous avez mis 252 familles, parce que c'est ce qui se passe, ça devient un bidonville. Au début, c'est des tentes. À partir de l'hiver 54-55, ça devient des igloos en fibro-ciment. Donc on appelle ça des igloos parce que c'est des baraques semi-circulaires avec un toit de tôle ondulée. C'est des conditions absolument dramatiques. Mais comme dans tous les bidonvilles de France à cette époque-là, on le sait pas très bien, mais en 65, par exemple, en France, donc 10 ans plus tard, il y a quand même 75 000 personnes qui vivent dans 255 bidonvilles en France.
Qui cherche un aumônier
parce que les responsables et les aumôniers ne restent pas. Donc l'évêque du père Joseph, qui ne sait pas trop quoi en faire dans sa petite campagne à Duisel, lui propose d'aller voir. Et donc le père Joseph arrive le 14 juillet 1956 et il reconnaît son enfance. Ces gens, ces femmes, ces enfants, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma mère. Et il a ce mot, il reconnaît son peuple. Et alors ce terme de peuple, il est assez intéressant parce que c'est un terme qui est à la fois très français révolutionnaire, le peuple de la Révolution française.
Mais très biblique
c'est
aussi.
C'est un terme qui est très socialiste, le front populaire. Et c'est en même temps un terme complètement biblique. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple messianique, etc. Il dit, et je me suis promis ce jour-là, que si je restais, je lui ferais gravir les marches du Vatican, de l'Élysée, de l'ONU. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va au final réussir à le faire, ce qui, dans un bidonville en 56, c'était vraiment pas gagné. Et donc il prend quelques mois de réflexion, et en novembre 56, il décide de rester, et il s'installe dans le camp.
Puis un jour, l'évêque m'a dit, mais...
Tu sais, Joseph, voilà, je t'ai fait venir parce qu'il y a un camp à Noisy-le-Grand, 252 familles, peut-être 300. Il y a plusieurs prêtres qui sont venus, ils n'ont pas pu y rester, les familles les ont chassés. Tu y vas, tu restes 6 mois, 1 an, et puis tu rentres en diocèse.
La suite de l'histoire.
Non seulement il accepte cette mission, mais contrairement au précédent, il décide d'y vivre.
Parce qu'il dit qu'on ne peut pas mener une action si on vit à l'extérieur, dans un endroit très confortable. Il subit le même froid que les familles. Il n'a pas de couverture quand il en a une, il en donne à une famille qui arrive en plein milieu de la nuit, etc. Il n'a pas plus à manger. Il communie, en quelque sorte, dans tous les sens du terme, avec ce peuple.
Comment est-il accueilli par ces gens ?
Alors au début, avec méfiance, avec circonspection, puisque tous les communautaires qui avaient pris la direction du camp et tous les aumôniers ne sont pas restés très longtemps. On voit des témoignages où visiblement il y avait un aumônier qui passait son temps ou bien à lire sa Bible ou bien à reluquer les filles qui passaient. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas solides. Et lui, il arrive dans une de chevaux complètement déglinguée, avec une soutane complètement abîmée. Donc déjà, il a un look qui le fait plus facilement accepter. Assez rapidement, il y a une bagarre dans le camp. Enfin, il y a des problèmes dans le camp, donc il essaye de gérer les bagarres. Et puis, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui le traite, je crois, d'enculé, enfin un vrai gros mot. Et le père Joseph lui retourne un coup de poing et met l'homme par terre, KO comme ça. Et là, les gens sont sidérés parce que c'est un prêtre qui relève ses manches et qui se bat si jamais il faut faire respecter l'ordre et maintenir un minimum de gestion correcte du camp. Donc il est complètement atypique et il va aussi arriver avec des conceptions complètement différentes des autres et donc assez rapidement, visiblement, il parvient à se faire accepter.
Vous dites qu'il a des méthodes un peu atypiques, différentes. Quelles méthodes ? Parce qu'auparavant, le camp fonctionnait comment ?
Alors, le camp fonctionnait avec, on ne sait pas trop si c'est 26 ou 28 œuvres caritatives qui s'occupaient des enfants, qui donnaient des vestiaires, des soupes populaires, etc. C'était un camp qu'on dirait aujourd'hui encore complètement assisté. Sauf qu'à cette époque-là, le terme assisté n'était pas stigmatisant puisque c'était le terme en vigueur dans les pouvoirs publics jusqu'en 1953 et puis il était encore. Après, on parlera d'aide sociale, mais donc c'était des assistés parce qu'on leur donnait à manger, il y avait la soupe populaire, il y avait des vestiaires, etc. Tout était pris en charge. Et l'idée du Père Joseph, c'est qu'on ne peut pas retrouver sa dignité quand on est tributaire de l'assistance, quand on est tributaire du don des autres, que c'est anti-dignité, puis ça ne vous pousse pas à vous mettre au travail, puisque de toute façon, la soupe, elle arrivera, de toute façon, le vêtement, il arrivera. Son idée, c'est au contraire de donner aux populations les moyens de se reprendre en main, d'acquérir une autonomie professionnelle, sociale, de la dignité, de la parole, de la conscience de soi, etc. Et il renvoie, par exemple, les œuvres du camp.
Comment la population réagit-elle ? Parce que cette aide à laquelle elle était habituée, du jour au lendemain, disparaît ?
Ça disparaît. Alors en fait, quand on regarde un peu plus en détail les archives, ça disparaît pas du jour au lendemain parce qu'il y a des gens qui sont assez rétifs. Il y a beaucoup de perturbations. On est aussi dans l'époque où il y a les Nord-Africains, il y a la guerre d'Algérie. À un moment, il y a des pieds noirs qui commencent à prendre possession du comité du camp, à essayer de faire un putsch, qui veulent prendre le vestiaire, etc. Donc c'est vraiment très très compliqué. À un moment, le Père Joseph rouvre le vestiaire, refait des braderies libres et puis la population en fait se rend compte de la conception qu'avait le Père Joseph de ce refus d'être assisté, tributaire de l'assistance, et va petit à petit s'y ranger. D'autant que en fait, en parallèle, le Père Joseph juste coupe pas les vivres et puis ne fait rien. Il invente complètement une autre méthode. La première chose qu'il implante dans le camp, c'est une bibliothèque. En 57. Dès 57, il crée une bibliothèque parce qu'il rêve que les enfants puissent avoir un lieu à eux où ils puissent faire leurs devoirs en rentrant de l'école. Vous imaginez ce que c'est pour un enfant qui vit dans un bidonville de devoir faire ses devoirs en rentrant de l'école si tant est qu'il a pu aller à l'école parce que vous êtes pouilleux, gadouilleux, etc. Il y en a plein qui ont abdiqué. Donc déjà, il y a toute l'entreprise d'aller remettre les enfants dans une démarche de scolarisation. Et puis après, quand ils rentrent chez eux, comment vous pouvez faire vos devoirs dans un igloo qui fait 5 mètres sur 8, où il y a entassé 8 personnes, tout qui est mélangé, la cuisine, la télé, la femme, la radio, je sais pas, les chiens, un bruit, le père qui est violent, qui rentre du travail, tout le monde qui est exaspéré, c'est absolument infernal. Donc la bibliothèque, c'est le lieu de l'apaisement, c'est le lieu du savoir, c'est le lieu de la découverte, de l'écrit.
Et ça marche ?
Et ça marche, petit à petit ça marche. Alors c'est pareil, c'est pas miraculeux et tout marche pas du premier coup. Quand les gens se révoltent, ils se révoltent contre la bibliothèque parce que c'est le symbole et donc il y a des jeunes qui cassent la bibliothèque et donc il faut reconstruire. Mais la population, elle s'y remet à reconstruire la bibliothèque.
Et lui, il y croit.
Et lui, il y croit parce qu'il sait que c'est le levier. Il a la conviction, c'est vraiment la spécificité d'ATD Quart-Monde par rapport à toutes les autres associations de solidarité. La plupart considèrent que la pauvreté, elle est économique et que donc il faut redonner des moyens économiques et que la machine se réenclenchera. Lui, il dit non. Là, on a affaire à un degré de pauvreté tel qu'il faut reprendre les choses à la base et que juste donner de l'argent, ça ne suffira pas. Donc il faut redonner du savoir, de la culture, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, etc.
C'est le Père Joseph qui m'a parlé de l'école. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses, toi, Martine, de l'école ? Et je lui ai dit, mais l'école, c'est quelque chose de terrible. Et lui, il me disait, mais l'école, c'est l'endroit où tu peux te sauver.
RCF, Véronique Alzieu.
Tout ça se met en place petit à petit dans le camp. Ensuite, il y a des clubs pour les enfants, il y a des clubs d'artisanat, il y a une chapelle aussi.
Oui, alors la chapelle, elle arrive tout de suite. Dès 57 aussi, c'est la deuxième chose. 57, c'est d'abord la bibliothèque et après la chapelle avec des vitraux de Bazaine. C'est un monument historique.
Donc du beau.
du beau. Si tout à coup on retrouve le goût du beau, eh ben ça va faire un levier. Il met une esthéticienne dans le camp aussi. Donc les femmes, elles ont à nouveau le goût d'aller voir la maîtresse, à nouveau le goût de se présenter pour essayer de trouver du travail, etc. Et le beau, ça donne envie à nouveau de transformer son intérieur. L'intérieur qui était laid, qui était gadouilleux, eh ben on a envie de mettre des rideaux, de faire un petit jardin coquet. Et donc il va y avoir des vitraux, de miroirs et de braques dans le foyer féminin où les femmes, elles ont une machine à laver et une sécheuse pour pouvoir laver leur linge. Parce qu'avant, elles utilisaient le vestiaire parce que c'est tellement compliqué d'aller au lavoir, de tout frotter quand on vit dans un camp de boue et que 10 minutes après, faudra tout recommencer, que autant prendre les vêtements que les gens donnent. Et voilà. Donc c'est vraiment un
système. Il fait goudronner, non, aussi, l'intérieur
des camps. Il fait viabiliser les routes, il fait installer l'électricité, il instaure des camps l'été avec des jeunes volontaires qui viennent aider à construire, à viabiliser le camp, à rajouter des bornes fontaines, à enlever les détritus, etc., etc. Donc il devient au moins un minimum viable.
Comment est-il perçu par les autorités, par l'Église aussi à ce moment-là ?
Alors, très différemment par les autorités et par l'Église. L'Église, paradoxalement, le soutient. Parce qu'on est dans l'époque de la condamnation des prêtres ouvriers, mais il reste un tropisme social. Son évêque, visiblement, de Versailles, l'a à peu près toujours soutenu, en tout cas dans les moments les plus difficiles. Par contre, avec les autorités, c'est très très compliqué. Parce que la mairie de Noisy, qui est une mairie... Alors à l'origine, c'est quand même assez bourgeois, Noisy. Et donc, on n'en veut pas de cette population qui fait tâche. En fait, il y a des gens qui viennent visiter le zoo de Vincennes le dimanche et qui viennent aller passer un détour par Noisy pour aller voir les gens comme aux zoos. Ça coûte une fortune à la municipalité et c'est un bidonville dans une mairie qui essaye de s'embourgeoiser. Le maire de Noisy n'a qu'une obsession, c'est de faire détruire le camp. Et une partie des ministères essayent eux aussi de faire détruire le camp parce qu'on est dans la période où la France détruit ses bidonvilles. À la place, on essaye de construire du logement social, des cités de transit, etc. Mais les bidonvilles, de toute façon, c'est une honte humaine. Donc la France, début des années 60 et jusqu'à la grande loi Debré 64 qui va catalyser les choses, elle détruit les bidonvilles. Donc il n'y a aucune raison de maintenir ce camp.
Donc lui se bat contre ça.
Et lui, il se bat parce qu'il se dit, en fait, si on disperse la population, on n'aura rien résolu. Et moi, ma conception, c'est d'en faire un peuple, c'est de l'autonomiser, c'est de lui rendre sa dignité. Et si on détruit le camp, qu'on disperse les gens, on aura dispersé le problème, mais on ne l'aura pas résolu. Et mon expérience, elle passe par Noisy, qui est un peuple, en quelque sorte, expérimental, dans cette nouvelle conception de la lutte contre la pauvreté.
À demain.
À demain.
Merci.